Tchatch, le ravi, Radio Grenouille.
Les cinémas, les théâtres, les salles de concert, les bars et restaurants restent désespérément fermés. Mais revoilà, portes grandes ouvertes, une nouvelle grande tchatch, l'émission du ravi sur la grenouille. Au micro pour vous servir Michel Guéraud, le rédacteur-chef du journal régional Pas Pareil, qui ne baisse jamais les bras. Et surtout, avec nous, dans ce studio, une comédienne, et pas la moindre, Ariane Ascaride. Mais avant de grandement tchatcher, présentons, si c'est encore utile, notre invité. Je soigne très jalousement les fils que j'ai tissés, écrivez-vous dès le début de votre livre. Des liens d'amitié qui vous protègent contre une forteresse. Le fil que vous nous tendez, Ariane, de film en film, de rôle en rôle, nous guide aussi dans le labyrinthe de notre monde, parfois effrayant, et de nos vies, forcément chaotiques. Votre voix se mélange volontiers à celle de vos compagnons de bohème, Pierre Daroussin, Gérard Mélan. Et elle s'en mêle forcément à celle de votre mari, Robert Guédiguian, avec lequel vous avez déjà tourné 20 films. C'est le sort d'une comédienne, Ariane Ascaride, d'être parfois confondue avec ses personnages. Pour beaucoup, à jamais, vous êtes Jeannette, la caissière solaire et amoureuse. Le rôle qui, dans Marius et Jeannette, avec un César de la meilleure actrice, vous a révélé au grand public il y a bientôt 25 ans. Pour d'autres, vous êtes désormais Sylvie, la femme de ménage dans Gloria Mundi, confrontée dans sa chair aux ravages du capitalisme. Rôle qui vous a valu, en 2019, le prix d'interprétation à la Mostra de Venise. Pour tous ceux qui vous suivent, vous êtes le visage, tour à tour souriant ou tragique, mais toujours révolté et fidèle, d'une ville, Marseille, et des gens de peu, ceux du Sud, si souvent grossièrement caricaturés. Dans la vraie vie, vous êtes une petite fille d'immigrés napolitains fuyant la misère. Née à Marseille, vous y avez grandi dans une famille modeste auprès d'une mère employée de bureau et d'un père coiffeur, puis représentant en cosmétique. Un père politisé, adorant le théâtre qu'il pratique en amateur. C'est à ses côtés, enfant, que vous montez pour la première fois sur les planches. Étudiante en sociologie à Aix-en-Provence, vous y militez parce qu'il faut changer le monde à l'UNEF, où vous rencontrez un certain Guédiguian. Puis vous montez à Paris et entrez au conservatoire, où vous suivez les cours d'Antoine Vitez et de Marcel Duval. Vous débutez au théâtre dans des pièces mises en scène par Pierre Ascaride, votre frère. La suite est connue. Elle se déroule toujours à l'ouest de l'Estaque, attention, où vous tournez de nombreux films, mais aussi à l'est de Paris, où vous vivez. Vous êtes aussi chez vous sur la scène des grands théâtres de la capitale. Il aura fallu une pandémie mondiale, la mise sous cloche de toute vie sociale et culturelle pour que vous signiez votre premier livre. Un grand merci au Covid. Dans Bonjour Pas, publié au Seuil, vous adressez des lettres aux fantômes de votre père, depuis longtemps disparu. Ce texte, intime, singulier, écrit pendant le premier confinement, fait écho à la sidérante expérience collective vécue il y a tout juste un an. Une crise sanitaire révélatrice jusqu'à l'absurde de la violence et de l'injustice de l'ordre économique qui gouverne nos sociétés. On y retrouve, avec un immense plaisir, votre fil poétique et politique. Notre fil d'Ariane. Ariane Ascaride, merci d'être avec nous aujourd'hui.
C'est moi qui vous remercie, bonjour.
Et donc, effectivement, un livre, voilà, une première pour vous.
Ah oui, une première, puis surtout, ce n'était pas du tout prévu que ce soit un livre, en fait. En fait, la petite histoire de ce livre, elle est toute simple. Augustin Trapenard, sur France Inter, avait, pendant le confinement, proposé à des gens de faire une lettre d'intérieur. Il m'avait donc appelé. Et j'ai écrit une lettre qu'il a lue, lui. Et puis, d'avoir fait ça, ça m'avait un petit peu enlevé l'enclume que j'avais sur l'estomac. Parce que le début du confinement, pour moi, était très difficilement supportable. Et je me suis dit, tiens, ça me fait du bien d'écrire comme ça. Il faut que j'écrive des lettres. Mais je me suis dit, je ne veux pas écrire des lettres à mes copains qui sont tous en train de vivre la même tragédie que moi. Donc, il fallait que je raconte ça à quelqu'un qui ne vivait pas ça. Et la seule personne qui ne... Enfin, y avait pas, c'était pas la seule. Mais enfin, il y avait mon père qui était mort, donc il ne pouvait pas vivre ça. Et je me suis dit, je vais lui écrire à lui, je vais écrire à son fantôme aussi. Et j'ai commencé à écrire, et j'écrivais un jour sur deux. Et en fait, trois semaines après que ma lettre ait été lue par Augustin Trapenard, les éditions du Seuil m'ont appelé en me demandant si je ne voulais pas développer la lettre. Et j'ai dit non, parce que ça avait été un geste comme ça. Et ils m'ont dit, mais vous écrivez autre chose? Et en rigolant, j'ai dit, ouais, j'écris des lettres aux fantômes de mon père. Alors, ça les a un peu surpris et ils m'ont dit, est-ce que ça vous embête de nous en envoyer quelques-unes? Mais vraiment, je me disais, mais qu'est-ce qu'ils ont? Ils sont malades. Donc, j'ai envoyé 3 lettres. Et puis, ils m'ont rappelé, ils m'ont dit, est-ce que vous allez continuer à écrire? J'ai dit, écoutez, oui, parce que pour moi, c'est thérapeutique. Et ils m'ont dit, si ça vous ennuie, on ne le fait pas, mais nous, on aimerait bien les publier. Et voilà comment ça s'est fait. Mais je peux dire vraiment, très sincèrement, que je ne les ai pas crus du tout. Mmh. Il a fallu que mon agent m'appelle en me disant, j'ai reçu un contrat d'édition, que je me dise, attends, c'est peut-être vrai. Mais surtout, ce que je me suis dit, c'est, je m'en fous, je ne pense pas à ça. Et j'écris à mon père. Et quand le premier confinement a été fini, mon éditrice est venue dans le jardin parce que je voulais faire rentrer personne chez moi. Et en fait, elle m'a dit, mais oui, nous, on veut. Et voilà, c'est comme ça que ce livre, presque en dehors de moi, ce livre existe. Et c'est, finalement, au fond, pour moi, c'est un cadeau.
C'est un cadeau pour nous aussi, ils ont bien fait d'insister. Parce que bon, en plus, alors, il a une résonance évidemment particulière. Là, on est à un an ouais. de cette histoire-là. Et à la fois, vous êtes, je viens de le dire, hein, sur quelque chose d'intime, mais qui parle à beaucoup, je pense, parce qu'on a tous, à différents endroits, traversé ça.
Oui, bien sûr, on a tous été traversés par des angoisses semblables.
Alors, vous le dites au début, c'est très violent. Vous dites, vous écrivez, par exemple, on nous enfonce la tête sous l'eau comme si on nous préparait à l'apocalypse. Enfin, vous vivez ça avec beaucoup de...
J'ai extrêmement mal supporté le début du confinement, parce que c'était, si vous voulez... C'était un peu comme si je me retrouvais dans un des films de science-fiction que je regardais quand j'étais ado, que j'allais au cinéma et que je regardais, je sais plus, je crois qu'il y avait un film qui s'appelait Soleil Vert, qui m'avait complètement terrifiée. Et là, j'avais l'impression que je vivais ça, quoi. C'était pas possible. Ça dépassait mon entendement, quoi.
Et vous êtes colère aussi. Vous êtes colère, par exemple, par rapport à tous vos amis, comme beaucoup de Parisiens qui ont pris leur voiture et qui sont partis dans leur maison secondaire.
C'est pas mes amis. Hein. Alors, des gens que je connais, mais mes amis,
Ils étaient là.
Oui, c'est toujours pareil. Enfin, il y avait quelque chose. Je me dis, mais c'est pas possible. Dès qu'il y a un problème, hop, tout le monde se barre. Parce que tout le monde s'est jeté. Enfin, j'ai des images que j'ai vues à la télé du périphérique de Paris où les voitures étaient les unes contre les autres pour quitter la capitale. Et après, ça m'énervait parce qu'on m'envoyait des photos. Vous savez, il y a des groupes qui se font sur WhatsApp ou des choses comme ça. Puis on m'envoyait des photos des fleurs de leur jardin. Et j'en avais rien à faire des fleurs de leur jardin. C'était parti d'un bon mouvement pour eux, mais moi, ça m'énervait.
Oui. Vous citez aussi, il y a une citation que vous prononciez dans un spectacle et qui vous revient en tête. Hein, À force de nous confiner, de nous contorsionner, nous avons fini par disparaître.
Oui, c'est le spectacle de Simon Abkarian qui s'appelle L'envol des cigognes, qui fait suite aux derniers jours du jeûne, qui sont deux pièces que j'ai jouées et que je pense rejouer avec Simon. Et en fait, L'envol des cigognes parle de la guerre. C'est une pièce sur la guerre. Et effectivement, cette réplique m'est revenue immédiatement à l'esprit. Et parce que c'est vrai qu'on continue d'ailleurs à se confiner, à se contorsionner, à accepter, à avoir peur, à paniquer. Alors bon, je pense que petit à petit, là, les gens commencent un peu à... En tout cas, en ce qui concerne les gens de mon métier, les gens du spectacle vivant, ça commence un peu à bouger, mais on a été très gentils. Très patient. Et on a droit au respect, si vous voulez.
Et là, vous dites comme quoi l'art et les artistes sont toujours un peu en avance sur la réalité.
Oui, c'est vrai. Mais ça, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Mao Tse-tung.
Vous voyez,
je ne fais que piquer une phrase de Mao Tse-tung qui dit que l'artiste est un pas en avant. Un pas en avant. Et je crois que c'est vrai. Je crois que les créateurs, particulièrement, les créateurs sont des gens qui sont un peu des visionnaires, quoi. Qui, de toute façon, enfin, ce métier-là, c'est ça, c'est transcender la réalité, c'est donner à voir les choses qui nous traversent, alors que des fois, on ne s'en rend même pas compte parce qu'on le vit dans le quotidien.
Alors, ce confinement, c'est aussi l'irruption, enfin, c'était déjà présent, mais l'apothéose de la vie virtuelle, et ça, vous en parlez,
je n'aime pas les gens plats. Voilà, je déteste ça. C'est-à-dire que on a passé, je sais pas combien de temps ça a duré ce confinement, 6 semaines, je sais plus, 8 semaines, à se voir plat. C'est-à-dire, donc du coup, il y a plus d'incarnation, il y a plus de corps, il y a plus de chair, il y a plus, il y a plus de regards qui sont là comme ça. On voit plus les yeux, on voit des yeux à travers un écran, on voit des mains à travers un écran. Et c'est, enfin pour moi c'est désespérant quoi. Enfin moi ça me désespère. Je suis fascinée par toutes les jeunes générations qui passent beaucoup de temps sur leurs écrans. Je suis incapable de le faire quoi. Je pense que c'est il y a quand même quelque chose qui participe dans le repli de soi. On a l'impression de pouvoir atteindre tout le monde, de pouvoir parler avec le monde entier. Oui on parle, mais on n'échange pas. Ce qui n'est pas la même chose.
Alors cette image, elle est d'une nature particulière. Vous la qualifiez comme une image sans âme, cette image sur nos écrans. Là, ça continue, hein, les rayons, zoom.
De fait, l'âme ne traverse pas les écrans. C'est tout.
Alors là, il y a un paradoxe là, dans ce que vous dites, et vous le soulignez, hein, l'image captée, vous en connaissez, c'est votre rayon, vous en savez quelque chose.
Oui, bien sûr. Oui, mais ce n'est pas du tout la même chose.
C'est pas la même.
Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que quand on fait un film, quand on travaille, d'abord, il y a un point de vue, c'est-à-dire l'endroit d'où l'on regarde l'histoire que l'on va raconter. Ça, c'est très important. Et après, comment c'est filmé, comment c'est éclairé, et comment nous, à l'intérieur de ça, nous allons effectivement enlever cette espèce d'armure protectrice que nous avons tous pour supporter la vie de tous les jours, parce que c'est comme ça, parce que sinon, si on était tout le temps à fleur de peau, on serait tous fous. Mais le temps des scènes, oui, on est à fleur de peau. Et donc, à ce moment-là, effectivement, ça passe.
Et ce que vous... Alors, je ne sais pas, ce n'est pas un texte dénonciateur, mais c'est un texte en colère, par moments, clairement.
Oui,
c'est
bien sûr. Oui, oui.
Et ce monde-là, ce monde de distanciation sociale, il vous sort par les yeux.
Mais c'est-à-dire que déjà, l'expression distanciation sociale est absolument épouvantable. Moi, je ne l'entends pas comme avoir de l'espace les uns envers les autres. La distanciation sociale, pour moi, c'est que des classes regardent d'autres classes pas de la même manière, quoi. Vous voyez, c'est ça la distanciation sociale. La distanciation sociale, c'est qu'il y a des cultures de classe et qu'il y a des classes qui pensent que leur culture est meilleure que la culture d'autres classes. Pour être simple, la bourgeoisie pense toujours que ce qu'elle fait, ce qu'elle dit est beaucoup plus intéressant que ce que peut dire le monde populaire. Moi, j'entends ça quand on me dit distanciation sociale. Vous voyez ?
Mmh.
Donc ça me met très, très en colère.
Et là, on se retrouve dans un monde que vous qualifiez de froid, lisse, formaté.
C'est vrai, non ? C'est pas vrai ? On est... Et même ça, c'est presque en dehors, déjà avant la crise du Covid. En tout cas, nous sommes dans une société qui tend de plus en plus à nous formater, qui fait des médias... des passeurs de événementiel et non plus de l'information. Enfin, je suis complètement terrifiée par la manière dont sont données les informations dans beaucoup de médias. On cherche avant tout le scoop, on cherche les faits et on ne cherche pas la réflexion par rapport à un sujet si on travaille sur un reportage précis. Et ça, c'est vraiment très, très embêtant, quoi. On est dans des temps de cynisme, on est dans des temps où être trop vivant, avoir de l'enthousiasme, c'est pas très bien vu.
Et là, vous le dites, hein, vous l'écrivez aussi, vous dites à un moment à votre père, j'ai décidé d'arrêter d'écouter les infos qui ne parlent que de la mort et les difficultés à la combattre.
C'est vrai, mais ça fait un an qu'on vit avec la mort, en permanence. On vit avec la mort... On vit avec le fait qu'on nous responsabilise si les gens meurent. C'est notre faute, en gros, hein, quand même. C'est pas la faute de décennies de politiques sanitaires et de la santé publique qui ont fait qu'on a fermé des lits et on a fermé des lits et on a encore fermé des lits et on continue à fermer des lits, d'ailleurs. Parce que ça, on ne le dit jamais. Mais les lits, on continue à les fermer. Il a fallu que l'hôpital public devienne rentable. Et nous, on passe notre temps à nous dire qu'il faut être responsable. Mais je trouve que les gens sont extrêmement responsables. Et en plus, je vais vous dire, c'est pas toujours évident d'être responsable comme ils l'entendent. Parce que faut voir, pas tout le monde vit dans les mêmes conditions. Pas tout le monde a la possibilité d'avoir un grand appartement, de pouvoir se mettre dans un coin si jamais on est touché par le virus. Pas tout le monde n'a le même rapport à la médecine. C'est pas vrai.
Et là, vous êtes lucide d'ailleurs. Hein, votre témoignage, qui a un caractère universel, je pense. Hein, vous dites, il vient de quelque part et vous parlez de la cité en face de chez vous. Ouais. Vous savez que. Vous êtes une privilégiée.
Bien sûr que je suis une privilégiée. Moi, j'ai un jardin. En face de chez moi, il y a une cité où les gens ils s'entassent dans les appartements. Et des gens qui, comme je disais, n'ont pas eu la même possibilité d'acquérir une culture qui est la mienne. Et voilà. Donc, si vous voulez, il y a des choses qu'on maîtrise plus ou moins bien. Et puis, il y a des choses qu'on est obligé de faire, parce que quand même, pendant que moi, j'étais confinée, il y avait quand même beaucoup de gens qui étaient obligés d'aller travailler, et qui étaient des caissières, qui étaient des gens qui faisaient les ménages dans les bureaux, qui étaient les mecs qui étaient livreurs, et qui se sont pas arrêtés. Et je parle pas du personnel soignant, c'est même pas la peine d'en parler, enfin, c'est des héros. Mais c'est ça, il y a deux poids, deux mesures, quand même. Hein. Il y en a qui sont effectivement à la campagne et qui regardent leurs fleurs s'ouvrir, et il y en a d'autres qui se lèvent toujours à 6h du matin pour nous faire manger, par exemple. Voilà. Et qui n'ont pas eu tout de suite les protections qu'il fallait.
Voilà. Alors, il y a de l'humour hein, dans votre texte. Vous écrivez à un moment aussi, si je croyais en qui que ce soit, je me dirais qu'il n'aime pas du tout ce que le monde est devenu avec un I majuscule.
C'est vrai.
Vous parlez à votre père, le fantôme de votre père, au bon Dieu.
Non, je parle au bon Dieu. Je parle au bon Dieu. Si, parce que j'ai toujours bien aimé, je n'y crois pas, mais j'aime bien, il fait partie de ma vie, enfin, comme une personne. Enfin, je le personnalise, le bon Dieu. Et je me dis que peut-être le bon Dieu, en ce moment, il en a ras la casquette. Mais ce qu'il faudrait d'abord savoir, c'est que le bon Dieu, il sache que nous, les humains, on n'en peut plus. Et qu'on fait vivre les humains dans des conditions qui, aujourd'hui, sont parfois honteuses, pas obligatoirement par le Covid. Hein. Ce qui est en train de se passer en Birmanie, c'est monstrueux. Ce qui s'est passé en Syrie, c'est monstrueux. Et qu'on est dans des temps qui sont avant tout des temps de profit, tout simplement. Et que l'économie ayant pris le pas sur le politique, ben voilà, on fonctionne que comme ça.
On va revenir hein, sur tous les aspects, je pense, politiques de ce texte. Mais c'est aussi une introspection et beaucoup de monde, on a été nombreux aussi à prendre le temps et à se retrouver, à se retourner vers soi. Et là, c'est la figure de votre père, c'est l'enfance, c'est tout ça qui remonte.
Ce qui était la bonne chose, entre guillemets, de cet enfermement, parce qu'il n'y a pas d'autre mot que celui-là, c'est que d'un coup, moi je suis très sensible au bruit, très très sensible à tout ce qui est auditif, enfin au son. Et d'un coup, dans ce pays qui n'est pas mon pays de naissance, j'ai d'un coup entendu des sons que je croyais ne plus entendre dans toute ma vie, des sons de temps perdu, enfin de temps oublié, de temps dépassé. Et ça, c'était des réminiscences absolument magnifiques. Pour moi, ça a été des réminiscences magnifiques. Ouais, ouais.
Il y a quelque chose qui est présent aussi et qui apparaît en banlieue Est. C'est pas évident, c'est la nature. Hein. C'est ça, dans le prolongement de ce que vous dites.
Oui, c'est comment vous dire. Bon, donc j'ai un jardin. Alors pas un grand jardin, mais j'ai la chance d'avoir un jardin. Donc, je me suis retrouvée à aller regarder pousser les fleurs. Vraiment, parce qu'on a vraiment eu le temps de regarder pousser les fleurs, puisque c'était un printemps en plus complètement incroyable dans la région parisienne. J'ai jamais vu un printemps comme ça dans la région parisienne. Il faisait chaud, il y avait du soleil tous les jours, comme si la nature nous disait « Bon, bah écoutez, comme vous êtes tous coincés là, on va un peu respirer, nous. » Et ça, c'était fabuleux, quoi. Et d'ailleurs, après le confinement, Je suis mais à la fin, quand on a pu commencer à sortir, j'ai fait une balade. Alors, c'est une balade dans Montreuil, mais vraiment dans Montreuil. Et il y a un endroit que j'aime bien où il y a un terrain vague. J'aime beaucoup les terrains vagues. Et le terrain vague était rempli de coquelicots. Et là, je me suis dit, c'est génial, quoi. J'en ai fait une photo, enfin, pour me dire que c'était vraiment vrai, quoi. D'un coup, il y avait des coquelicots en Seine-Saint-Denis. Bah, c'était comme si, vous voulez, comme si il y avait d'un coup l'impression, sur l'époque dans laquelle on vivait, il y avait comme l'impression d'une époque finie qui, hop, avait la possibilité d'un coup de réapparaître, comme une photo qui se révélerait, je ne sais pas comment dire. Mmh. Et ce terrain vague, c'est une ancienne usine, donc il reste des bouts de murs. Et au milieu de ces murs, il y avait des coquelicots, un champ de coquelicots.
Alors c'est important, les coquelicots, et vous vous dites ces belles fleurs rouges, hein, si fragiles, si indépendantes, et qui ne se laissent pas cueillir. Hein, dès qu'on les attrape, paf, il n'y a plus rien. La nature qui nous fait un gigantesque pied de nez, c'est
Bah oui, hein, évidemment.
Nous autres, arrogants, prétentieux, on apparemment tiré la conclusion de l'épisode. Là, enfin,
Bah, c'est ça qui m'embête un peu, quoi. J'ai cru naïvement, mais vraiment parce que j'étais très naïve ou parce que j'avais envie de le croire, je ne sais pas. J'ai cru naïvement que peut-être tout le monde commencerait un peu à se poser la question et à se dire, mais... vous savez, il y a un truc pendant ce temps-là que j'ai entendu, une information qui m'a fascinée, elle me fascine encore. C'est-à-dire que quand nous avons tous été confinés, là, pas que les Français, hein, quand on a tous été confinés, ça a fait que la Terre a moins tremblé. Je n'étais pas du tout consciente que nous faisions trembler la Terre. Donc je me trouve très, très, très prétentieux, quoi. C'est-à-dire que cet endroit qui nous donne asile, dans lequel nous pouvons vivre, on le maltraite. Et ça, c'est insupportable. Je ne suis pas, vous voyez, je ne suis pas végétarienne, je ne suis pas quelqu'un, vous voyez, qui a une espèce de ligne de conduite écologique très très forte, c'est pas ça. Mais juste, il faut quand même que tout le monde se dise maintenant qu'il en va de sa vie, et je dis bien de sa vie et de la vie de ses petits-enfants, de ses enfants et de ses arrière-petits-enfants, qu'il faut prendre soin de cette planète. C'est tout, c'est pas plus compliqué. C'est très simple, quoi. C'est-à-dire avoir des gestes... je sais pas, moi, plus acheter de... Enfin, vous savez, Guédiguian, il vient de faire un film en Afrique. Mmh. Et en fait, ce qui est complètement dingue en Afrique, il était désespéré au début, parce que le capitalisme et le profit ont envahi l'Afrique de sacs plastiques. Voilà, il y a des sacs plastiques partout. C'est monstrueux. Et ça, il faut que les sacs plastiques disparaissent. Donc ça, par exemple, faire un truc tout bête, hein, c'est ne plus se servir de sacs plastiques. On commence comme ça.
Finalement, vous êtes arrivé aussi à cette étape, après le sentiment d'enfermement, de se dire... Là, il y a un ralentissement et tant mieux. Enfin, profitons-en. Enfin, il y a eu cette phase aussi.
Absolument. Moi, c'est-à-dire que le temps ne se vivait plus de la même manière. Moi, je vis dans une ville qui va vite. Je vis dans un métier qui va très vite. Et c'est très fatigant. Et peut-être que de temps en temps, j'ai perdu l'habitude d'accepter un temps vide. Je crois que ça doit me faire peur. Et là, c'était obligé. Et effectivement, au début, ça m'a fait très, très, très peur. Et puis, peut-être après, petit à petit, je me suis dit que c'était pas si mal que ça.
Alors, on découvre votre père, on découvre sa relation à l'Italie, enfin, à ses racines, à vos racines italiennes. Et on apprend que c'était pas simple pour lui. Enfin, il refusait complètement part de votre histoire.
Vous savez, quand vous êtes issu de l'immigration, il y a deux solutions. Soit vous voulez vous intégrer, mais vous intégrer à mort. Soit, et de ce fait, vous avez honte. Et vous avez honte, pas simplement parce que vous vous dites que... Pourquoi vous avez honte? Voilà, c'est plutôt comme ça qu'il faudrait que je présente la chose. Parce que vous allez, à longueur de journée, de semaine et de mois et d'années, vous prendre dans la tête que vous êtes moins bien, que vous n'êtes pas un bon Français, que vous êtes un menteur, que vous êtes un voleur, que de toute façon vous êtes venu voler le travail des Français. Mon père, il a vécu ça, quoi. C'est ça qui était surtout, il habitait un quartier à Marseille qui était vraiment une espèce de Little Italy et qui était peuplé vraiment que d'Italiens. Dès qu'on sort de ce quartier, vous êtes regardé de manière bizarre. Mais on connaît toujours ça, non, il me semble.
Mm-hmm. Hein? Alors, c'est plus les Italiens.
C'est juste plus des Italiens, parce qu'aujourd'hui, être Italien, c'est chic. Mais je pense qu'il y a plein de jeunes filles, de jeunes garçons et même de parents de ces jeunes gens qui ont effectivement dû essuyer plus d'une humiliation dans leur vie.
Et comment vous réagissez quand justement ces Italiens aujourd'hui sont nombreux dans notre région par exemple, du côté de Nice, mais pas qu'à Nice hélas, qui tiennent aujourd'hui des propos racistes et qui sont dans le rejet des Maghrébins hein, pour...
Mais ça s'appelle la bêtise, ça s'appelle le non-savoir, ça s'appelle l'obscurantisme et ça s'appelle le fascisme. Voilà. Mais le fascisme, il se bâtit sur quoi? Il se bâtit sur la non-connaissance. D'où l'importance de l'école. D'où l'importance de donner de l'argent à l'école pour aider les enfants, pour leur donner la possibilité d'avoir le savoir. Parce que le savoir, ça vous donne le choix de la liberté, ou pas. Mais en tout cas, vous avez le choix. Et quand vous êtes dans des écoles qui n'ont pas les possibilités de faire le travail qu'elles devraient faire et qu'elles voudraient faire souvent, et que vous êtes dans des familles où effectivement le savoir n'est pas là comme ça, hein, et ben vous pouvez basculer dans cette honte que vous avez connue, vous allez la faire porter à d'autres qui arrivent après vous. Ça fait partie de l'humanité, ça, malheureusement. Ça fait partie du côté obscur de l'humanité. Et c'est vrai que, du coup, je vais dire ça avec humour, mais ça me fait un peu rigoler que, bien souvent, dans le Sud, les candidats du Rassemblement National, ils aient des noms qui finissent en O, en I, en U, en A. C'est quand même à mourir de rire, quoi. Et ils se trahissent eux-mêmes. C'est ça qu'ils ne comprennent pas. C'est qu'ils se trahissent eux-mêmes. Ils trahissent leurs grands-parents, ils trahissent leurs arrière-grands-parents. Honte à eux.
Mmh. Vous parlez de Paris aussi. Et vous dites que c'est si dur de se faire accepter de Paris.
Oui, c'est vrai que c'est très difficile. Hein, parce
même
que...
après toutes ces années.
Bah, vous savez, à Paris, ou vous êtes né à Paris, ou vous n'êtes pas né à Paris. Alors qu'en fait, il y a plein de gens qui ne sont pas nés à Paris. Mais ce mot provincial, vous voyez, c'est un mot qui est beaucoup usité à Paris. Ah oui, c'est oh ça fait provincial, expression. Ah ça fait provincial. Ah vous êtes provincial. Ah c'est comme quand Robert Guédiguian peut arriver quelque part où on lui dit oh c'est formidable de vous entendre parler. On a l'impression d'être en vacances, comme si les gens dans le sud étaient tout le temps en vacances. Donc, si vous voulez, c'est une espèce de forme de folklorisme qui me rend dingue. Et c'est vrai que j'ai dû, parce que je voulais faire ce métier-là, parce que je voulais travailler à Paris, j'ai dû changer mon accent, j'ai dû changer ma manière de m'exprimer, j'ai dû changer ma manière de m'habiller. Il fallait finalement, c'est pas très compliqué, il fallait finalement que je rentre dans les codes de la bourgeoisie, c'est tout. Parce que mon métier, il y a beaucoup de bourgeois dedans.
Actrice marseillaise, c'est péjoratif?
Bah, ça m'énerve, ouais, parce que je suis juste actrice, mais ça leur plaît de dire actrice marseillaise, quoi. Parce que du coup, vous voyez, ils ont l'impression du coup d'être en sandales ou en tongs. C'est très fatigant.
La Grande Tchatche, l'émission du Ravi sur Radio Grenouille.
Ariane Ascaride, vous avez choisi, comme c'est l'habitude dans cette émission, une chanson pour notre pause à 30 minutes. Et vous avez choisi « Les comédiens » de Charles Aznavour.
« bien voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent bien. Voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Les comédiens ont installé leur tréteau, ils ont dressé leur estrade étendue des calicots. Les comédiens ont parcouru les faubourgs, ils ont donné la parade à grand renfort de tambour. Devant l'église, une roulotte peinte en vert, avec les chaises d'un théâtre à ciel ouvert. Et derrière eux, comme un cortège en folie, ils drainent tout le pays, les comédiens. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent bien. Voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Si vous voulez voir confondu les coquins dans une histoire un peu triste où tout s'arrange à la fin. Si vous aimez voir trembler les amoureux, vous lamentez sur Baptiste pour rire avec les heureux. Poussez la toile et entrez donc vous installer. Sous les étoiles, le rideau va se lever. Quand les trois coups retentiront dans la nuit, ils vont renaître à la vie, les comédiens. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent bien. Voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Les comédiens ont démonté leur tréteau, ils ont monté leur estrade et plié les calicots. Ils laisseront au fond des cœurs de chacun un peu de la sérénade et du bonheur d'Arlequin. Demain matin, quand le soleil va se lever, ils seront loin et nous croirons avoir rêvé. Mais pour l'instant, ils traversent dans la nuit d'autres villages endormis, les comédiens. Viens voir les comédiens, les musiciens, les magiciens qui arrivent. Viens voir les comédiens, les musiciens, les magiciens qui arrivent. Viens voir les comédiens, les musiciens, les magiciens qui arrivent. Bien voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Bien voir les comédiens.
Alors voilà, on se demande quand est-ce qu'ils arrivent justement.
Hein. Bah, oui, moi aussi, je me demande quand est-ce qu'on va arriver, parce que ça commence à être long. Hein. Je veux y croire, et puis ce qui est en train de se passer, le mouvement qui est en train de se mettre en place, l'occupation du théâtre de l'Odéon, mais aussi l'occupation du théâtre de la Colline à Paris, puis l'occupation de théâtre aussi, de nombreux théâtres en province, et aussi l'occupation qui est faite par des intermittents du spectacle, mais aussi par les élèves d'école de théâtre. Ça, je trouve ça formidable, enthousiasmant. Et voilà, on va voir ce que ça donne. Ça va peut-être être long et difficile, mais il faut, quoi. Il faut, parce que là, toute cette corporation, que ce soit les musiciens, que ce soit les comédiens, que ce soit les danseurs, que ce soit... Et les gens dans les musées, et les auteurs, et tout le monde est en train de... Enfin, c'est un supplice chinois, quoi. C'est un supplice chinois, parce que nous ne savons rien, parce qu'on ne nous dit rien, parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas quand les choses vont pouvoir se décontracter, quand on va pouvoir ouvrir, avec des normes sanitaires, il n'y a pas de problème. Tout le monde, ça fait très longtemps que tout le monde les a acceptées. Même nous, avec Simon Abkarian, quand on avait repris le spectacle au Théâtre de Paris en octobre, on avait tout accepté, on était testés. Et surtout, ce qu'il faut dire, le public était extraordinaire. Parce que le public acceptait d'être mis à sa place, de ne pas bouger, d'avoir son sac sur ses genoux, son manteau sur ses genoux, de ne pas l'enlever et d'attendre à la fin du spectacle, de pouvoir sortir en commençant par les rangs du fond. Tout a été mais respecté à la ligne. Il n'y a jamais eu le moindre foyer d'infection dans les théâtres. Et on continue à nous dire oui, mais vous comprenez, oui, mais c'est dangereux, oui. Mais non, alors, si vous voulez, il y a un moment où, si vous prenez le métro à Paris, il y a un moment où vous ne comprenez pas. Hein. Si vous rentrez dans un grand magasin, il y a un moment où vous ne comprenez pas. Puisque les spectateurs sont espacés, enfin, vous ne comprenez pas.
Et là, depuis un an, sur des documents officiels qu'on a dû remplir pour pouvoir circuler, on a découvert cette notion de ce qui était essentiel et de ce qui était inessentiel.
Ouais, nous, on est inessentiel pour l'instant.
Alors voilà.
Alors, c'est pas vrai, parce que je pense qu'on est complètement essentiel, mais fondamentalement essentiel. Parce que qu'est-ce que fait un petit enfant quand il joue ? Il raconte des histoires. et ils jouent des personnages. Quand tu as 3 enfants qui sont ensemble, automatiquement, ils commencent à raconter une histoire. Ils feraient un... Alors, il y en a un qui ferait ça, l'autre, il ferait ça. Et hop, ils le font tout de suite. Donc, le sens profond c'est de ça, c'est une petite anecdote, mais ça veut dire qu'on ne peut pas vivre sans histoire. Qu'on ne peut pas vivre sans émotions qui sont montrées, sans phénomène par moment de catharsis quand on va au théâtre, sans émotions bouleversantes quand on va écouter une symphonie, sans la même quand on va voir un ballet. C'est pas possible. On ne peut pas vivre sans émotions. On ne peut pas. C'est pas simplement rêver. D'abord, le rêve, c'est fondamental et c'est essentiel parce que c'est aussi ça qui nous fait avancer. Même si des fois, c'est des rêves complètement fous. Mais même si on n'arrive pas à les atteindre, ça nous permet d'avancer. Mais ça nous permet, en avançant, en plus, de réfléchir. Et parce que notre métier, il touche aussi bien le cœur que la tête. Vous comprenez ?
Oui. Vous écrivez, l'art est aussi indispensable à mes yeux que boire et manger.
C'est vrai. Bah, en tout cas, moi j'en connais plein. Hein, qui, enfin, moi je peux vous dire qu'il y a plein de gens qui m'arrêtent dans la rue en me disant quand est-ce que vous réouvrez ? Quand est-ce que les cinémas réouvrent ? Parce que les gens n'en peuvent plus. Les gens n'en peuvent plus de voir en permanence tous les soirs. Si vous voulez, c'est un phénomène de saturation. Vous ne pouvez pas aller boire un coup dans un café et du coup vous ne pouvez pas parler avec vos copains. Vous ne pouvez pas même dans un café rencontrer quelqu'un que vous ne connaissez pas qui va vous raconter un truc que vous ne savez même pas que ça existe. Vous ne pouvez pas vous dire « Ah bah tiens, il y a quelqu'un qui m'a parlé d'un film, il paraît que c'est vachement bien. » Vous ne pouvez pas aller le voir. Donc vous faites quoi ? Vous faites du surplace. Vous n'êtes que... Et le soir, vous regardez des vieux films ou des films plus ou moins bons qu'on est en train de mettre sur des plateformes. Et vous ne participez pas à cet acte artistique qui est d'être en collectif. C'est fondamental de, comme je disais l'autre jour, moi je rêve de m'asseoir dans une salle de cinéma et de sentir le parfum de la dame qui est à côté de moi, ou de sentir l'odeur de la clope qu'a fumé le mec qui est à côté de moi juste avant d'entrer dans la salle de cinéma. Mmh. J'ai besoin de ça, parce que c'est la vie, parce que c'est les autres. Et j'ai horreur de voir tout ça toute seule, ça m'ennuie de voir des films toute seule.
Le cinéma va être durablement impacté par cette histoire ?
Ah bah c'est terrible. Parce que si vous voulez, on continue les tournages pour l'instant, mais je pense que petit à petit, ça va commencer à devenir difficile. Mais le problème, c'est que les distributeurs ne savent plus que faire des films qui ne sont pas sortis. Pour l'instant, il y a 250 films qui doivent sortir. Et on va les mettre où ? Ce qui veut dire que, effectivement, les gros bazars avec énormément de promos, de machins, hop, ils vont avoir des écrans. Et puis les premiers films, les films d'auteur, les choses comme ça, s'ils font pas un certain nombre d'entrées directes tout de suite, ils vont être éjectés au bout d'une semaine.
Là comme ailleurs, c'est la loi du marché qui
va
écraser...
Ça existe déjà dans le cinéma, vous savez.
Ça va accentuer cet aspect-là.
De toute façon, ça va être... Enfin, à mon sens, ça va être une foire d'empoigne. Hein. Moi, je ne sais pas du tout, et personne ne sait. Les distributeurs sont en train de s'arracher les cheveux. Personne ne sait comment ça va se passer, quoi. Vraiment personne. Et d'autant plus qu'il n'y a toujours pas de date. Donc, on est là, comme ça, suspendu, en l'air. On attend, soit avant de tomber au fond du précipice, ou soit d'avoir la chance de pouvoir remonter vers les nuages, je ne sais pas.
Le hasard fait que le jour où on a enregistré cette émission, en différé, c'est les Césars, c'est la journée des Césars, à vide, devant, sans public.
Je ne comprends pas.
Il fallait pas le faire.
D'abord, je pense que... Alors moi, je suis très contente parce que j'ai un ami qui s'appelle Emmanuel Mouret qui a plein de nominations. Donc ça, c'est formidable pour Emmanuel parce que je trouve que c'est vraiment un auteur-réalisateur formidable. C'est vraiment très bien, qui a construit une œuvre, qui a tenu son truc et ça n'a pas toujours été facile pour lui. Donc vraiment, ce moment de consécration, s'il y a consécration pour lui ce soir, je serai la plus contente du monde, vraiment. Mais les pauvres, tout seuls dans cette salle de l'Olympia, ça va être très bizarre, quoi. Parce que quand vous recevez des récompenses, la plus belle des récompenses, c'est les applaudissements, en fait. C'est de pouvoir recevoir cette récompense face à des gens qui vous reconnaissent. Et là, il n'y aura personne, quoi. Donc, c'est... En fait, pour moi, c'est assez morbide.
Cette institution qui vous a honoré a été fortement secouée, là, c'était l'année dernière. Ça vous va, la façon dont les choses se sont remises en place, en particulier autour de la question de la place des femmes, entre autres, et de la transparence aussi, hein, du fonctionnement de l'institution?
Alors la question de la transparence, ça, il me semble que c'était indispensable. Et la question de la place des femmes, ce n'est pas simplement à l'intérieur des Césars qu'elle se pose. Elle se pose partout, tout le temps et en permanence. Ce qui me fait chaud au cœur, c'est qu'effectivement, il y a des tas de générations de jeunes femmes qui se battent, qui contre quelque chose qui est séculaire, je dirais presque. Hein. On se bat contre des siècles de... J'ai pas envie de dire contre des siècles de machisme, parce que moi, je déteste pas du tout les hommes. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup les hommes. Mais simplement, si vous voulez, ça fait des siècles que les sociétés, elles sont bâties pour les hommes. Et que nous sommes là pour, vous savez, la petite main, là, celle qui fait tout, mais dont on ne parle pas. Donc, il faut arrêter ça, il faut remettre les choses en place, il faut se retrouver dans une situation égalitaire, il faut se battre, il va falloir beaucoup se battre, et il va falloir se battre longtemps, parce que ce n'est pas fini, ce n'est pas une histoire de 2, 3, 4 ans. C'est un combat de tous les jours. Mais on n'est pas obligatoirement obligé de crêper le chignon aux garçons, si vous voulez, de chignon qu'ils n'ont pas au demeurant. Mais par contre, de leur expliquer vraiment, parce qu'il y a des choses qui pour eux semblent normales, mais parce qu'ils ont été élevés comme ça. Et il y a une chose, alors je vais peut-être me faire des ennemis, et il y a une chose sur laquelle il faudra bien travailler. C'est l'éducation que les mères donnent à leurs fils. Et ça, là-dessus, il va vraiment falloir travailler.
Dans votre livre, dans ce dialogue avec le fantôme de votre père, vous parlez de vous, petite fille, de vous, de votre émancipation. Et voilà, vous dites, je n'ai pas souvenir d'avoir été gentil dans mon dialogue avec votre père. Vous vous dites aussi, j'étais qualifiée de garçon manqué, donc
ouais,
peut-être de fille réussie.
De fille réussie, oui. Oui, non, mais c'est vrai. Mais alors, si vous voulez, c'est un truc incroyable, parce que ça, c'est vraiment... Un jour, quand j'étais petite, j'avais de très longues tresses. Et un jour, mon père m'a coupé mes tresses. Et m'a coupé les cheveux courts. Et à partir de là, dans la rue, si je mettais un pantalon, on me prenait pour un garçon. Et du coup, j'ai mesuré la liberté que les garçons avaient par rapport à nous, les filles. Je pouvais courir, comme une folle. On ne disait rien, c'était un petit garçon. Je pouvais faire plein de trucs, je pouvais entrer dans des trucs, sortir, faire du bruit, taper du pied, parler fort. C'était normal, j'étais un garçon. Et c'est un truc, je vous assure, c'est resté dans ma tête. Et parce que c'était quand même dingue. Et du coup, effectivement, je me disais, pourquoi je ne suis pas un garçon? Qu'est-ce que je peux faire pour être un garçon? Pendant longtemps, effectivement, il y avait chez moi quelque chose... un peu masculin, quoi. Dans toute mon enfance, j'ai eu une enfance qui était plus masculine que féminine. Jusqu'au jour où on a commencé à me dire, mais Ariane, tu marches comme un grenadier, mais Ariane, on ne se tient pas comme ça, mais Ariane, on ne s'assied pas sur les trottoirs, mais Ariane, voilà, tu fais pousser tes cheveux, enfin, bon, voilà, des choses comme ça. Il fallait que je devienne une jeune fille. Mais c'est quoi une jeune fille? Alors bon, ça a un peu bougé par rapport à ma génération quand même, hein. Mais c'est dans ces petites choses-là, des petites choses dont on ne se rend même pas compte. En fait, c'est très insidieux, quoi, très insidieux.
Alors dans ce livre, il y a beaucoup de choses, on le comprend, et des va-et-vient entre hier, aujourd'hui, et des questionnements sur demain. Vous écrivez, c'est la première fois de ma vie que je pense que nous sommes à la croisée des chemins, qu'il ne va pas falloir se tromper de direction. Je veux encore et toujours croire en l'homme, et voilà, c'est pas simple.
Non, c'est pas simple du tout, et là, vous voyez, j'ai pas envie de dire que je suis inquiète, parce que ça sert à rien, et parce que ça règle rien de dire qu'on est inquiet. Mais c'est vrai qu'il faut pas qu'on se trompe, quoi. Et pour l'instant, je me rends bien compte qu'on est dans un espèce de boulgui-boulga qui n'est pas évident du tout. Moi, je pense beaucoup aux jeunes gens. Il y a des jeunes gens absolument extraordinaires, enfin il y en a beaucoup même, qui ont fait, entre autres pendant le confinement général, des choses fabuleuses. Des jeunes gens qui veulent vivre, des jeunes gens qui veulent transformer la société dans laquelle ils sont, des jeunes gens qu'il faut écouter, qu'il faut absolument écouter, Alors, ils parlent peut-être pas tout à fait comme moi, comme ma génération, mais qu'à cela ne tienne, il faut arriver à trouver un dialogue commun, et c'est pas si difficile que ça de le trouver. Il faut pas penser automatiquement que parce que ils sont jeunes et qu'ils écoutent du rap, ils sont cons comme des boîtes. C'est pas vrai du tout. Mais il faut travailler ensemble. Et pour l'instant, ça ne se fait pas, ça. C'est vraiment très difficile. Ça ne travaille pas ensemble.
Alors pourtant, là, le mouvement dont on parlait tout à l'heure là, dans les théâtres, il se définit. D'ailleurs, il dit on part des ronds-points, on occupait les ronds-points et maintenant on occupe les théâtres. Et la revendication, elle est culturelle, mais pas que. Elle est politique.
Bien sûr. Mais vous savez, c'est... Attendez, excusez-moi. Je pense qu'il y a beaucoup d'artistes, beaucoup d'écrivains qui ont aidé le peuple à avancer. D'accord ? Si on commence par Victor Hugo, et puis après on peut parler de Louis Aragon, et puis après on peut parler par exemple, quand moi j'étais petite, enfin, il était mort. Mais il y avait quand même un mec qui s'appelait Gérard Philippe, qui était une star internationale, qui a quand même été le premier président du syndicat des acteurs, des intermittents, vous voyez ? Donc c'est tout à fait possible d'être une star et de se préoccuper du réel. Non ?
Oui.
Donc aujourd'hui, il me semble que, et d'ailleurs, la plupart des grands artistes, enfin, que ce soit René Char ou que ce soit, je ne sais pas, enfin, il y en a plein, tous les poètes ont toujours été... La poésie, pour moi, par exemple, et si vous voulez, le rap, peut être par moment de la poésie. Je ne comprends pas toujours le rap, hein, je le dis sincèrement, hein, des fois je ne comprends pas bien ce qu'ils disent. Mais il me semble que la poésie, c'est une chose absolument indispensable. Et la poésie, c'est aussi important que la politique. Voilà. Et même, je crois qu'à travers la poésie, ça peut réveiller un sentiment politique. Et on ne laisse pas la place à la poésie. Enfin, de toute façon, ça fait des années que les poètes sont les parents pauvres de la création, même au niveau des institutions, si vous voulez. Or, si vous allez dans beaucoup de pays où le lien est plus fort, même si on appelle ça des pays en voie de développement, vous voyez cette phrase que j'adore, la poésie, elle est là, elle existe très fort et elle fait le lien entre les générations. Et ça, c'est vraiment une chose magique.
Pendant ce confinement, vous avez aussi exprimé dans ce livre des inquiétudes et des colères, et en désignant clairement des responsabilités. Vous l'écrivez à différents moments, hein, à J+1, J+2, ouais. Avec des mots. Vous parlez de clown irresponsable au début.
Quand même, non ?
Oui.
Enfin, ils sont clownesques. Enfin, c'est des clowns tristes. Hein. C'est des clowns terribles. C'est des clowns, c'est le Joker, quoi, par moment, vous voyez.
On s'éloigne de la poésie, là, oui.
Là, on s'éloigne très fort de la poésie. D'abord, ces gens-là ne savent même pas que la poésie, ça existe. Vous voulez que je vous dise ? Ils ne savent pas. Oui, ils ont appris peut-être un poème de Verlaine, un poème de Rimbaud. Rimbaud, je crois qu'ils l'ont appris, mais ils n'ont pas compris. Mais ces gens-là étaient, pathétiques.
Emmanuel Macron, lors de ses premiers discours, incitait les gens à prendre des livres, à s'occuper, à lire.
Oui, bien sûr. Je ne sais pas ce qu'il a lu, lui, dans sa vie. Puis, de toute façon, je n'ai pas envie de l'attaquer personnellement, parce que ça n'a aucun intérêt, et puis qu'il ne m'intéresse pas plus que ça, si vous voulez. Mais avant, effectivement, que la lecture, c'est une chose... moi, qui suis une très grande lectrice, enfin, c'est un des plus grands plaisirs de ma vie, mais ça s'apprend, la lecture. Vous voyez ? Ça s'apprend. On lit pas, c'est pas simplement ça s'apprend comme à l'école, on apprend à lire, c'est pas ça que je veux dire. Prendre un livre, l'ouvrir et se dire, surtout se dire que ce livre, vous avez le droit de le lire. Parce que dans beaucoup, moi je me rappelle que si vous voulez, une fille ou un gars qui se balade avec un livre, c'est un bourge, c'est ceci, c'est cela, mais non. Et dans des milieux populaires, on va même se foutre de votre gueule si vous lisez. Donc vous allez le cacher, le livre. Ou du coup, vous n'allez pas le prendre parce que les codes ne sont pas les mêmes. Or, le livre, c'est pour tout le monde. Et moi, certaines de mes victoires, c'est d'avoir amené des gens qui disaient « Moi, la lecture, non, moi je m'ennuie. » Des gens que je les ai amenés à la lecture. Et ça fait partie des victoires de ma vie, beaucoup plus, je crois, que les Césars ou les prix. Voilà.
Quand vous écrivez à votre fantôme de père, il faut se battre avec une énergie herculéenne pour arriver ne serait-ce qu'à émettre une pensée différente et solidaire.
Ben ouais. Vous savez, moi je sais très bien que dans mon métier je suis stigmatisée, ça ne me dérange pas.
Mais c'est carrément.
Ben bien sûr, évidemment. Alors maintenant, si vous voulez, en plus avec l'âge et puis les prix en Italie, à Venise. Alors il y a une espèce de... Je suis en train de devenir une vieille commode, vous voyez, une espèce de truc qu'on peut présenter devant lequel on a un certain respect parce qu'elle a tenu malgré les années, malgré les choses. Mais c'est fatigant, quoi. C'est tellement fatigant de toujours recommencer, de toujours redire les mêmes choses, de toujours redire qu'il y a des cultures différentes, qu'il n'y a pas qu'une seule culture, qu'on peut apporter énormément de choses. Enfin, de toute façon, je vais vous dire, c'est pas compliqué. Hein. Qu'est-ce qu'il a fait, Molière ? Molière, il s'est barré, il est parti, il est allé en France, il a écouté tous les langages, les choses comme ça, à Pézenas et ailleurs, et il a engrangé ça. Et il a retranscrit à travers son écriture, qui est une écriture absolument formidable. Mais c'est quand même... Qu'est-ce qu'on vous dit quand vous allez à l'étranger ? Ah, la France, le pays de Molière ! Donc, c'est toujours à l'intérieur du monde populaire qu'on va chercher les racines des choses. Et ça, plus personne ne le dit.
Mmh.
Donc, et moi, je passe mon temps à essayer de dire, mais... quand on fait des films avec Guédiguian, les gens vous disent « Ah, oh, mais quelle émotion, mais qu'est-ce qu'ils sont... Ah, mais c'est formidable. Oh, on n'aurait pas cru que c'était si difficile de vivre dans le Sud, parce que le soleil, la mer... » Et oh, et le chômage, ça existe dans le Sud. Et sacrément, d'ailleurs. Et dans cette ville si étonnante, dont tout... Parce que Marseille, c'est quand même une ville qui devient très, très à la mode, je peux vous le dire, moi qui... malgré ma peur, prend beaucoup d'avions pour aller défendre des films dans plein de pays. Marseille, ça devient très, très, très à la mode. Vous voyez ?
Mmh.
Et parce que Marseille, c'est une ville monde. Et c'est une ville qui a résisté, qui est une ville assez étonnante, qui résiste et qui a sa propre culture. Et de ça, ça donne des choses extraordinaires. Enfin, c'est clair, non ? Je ne sais pas, que ce soit Suarez, que ce soit Pagnol aussi, à sa manière. Mais vraiment, il y a des films ici qui sont faits par des gens d'ici. Mais ça demande de l'excellence, en fait. Le problème qu'on a, je vais m'arrêter parce qu'après sinon je peux parler pendant 3 heures là-dessus. Le problème qu'on a, c'est que quand vous êtes d'extraction populaire, vous n'avez qu'une solution. C'est l'excellence. Donc il faut travailler 3 fois plus que les autres.
Mmh.
Pour arriver à ce qu'on vous respecte. Parce que vous n'avez pas de solution. Vous ne pouvez que imposer. Et que vous arriverez à imposer si ce que vous faites est génial. C'est-à-dire que ça fait partie de l'évidence, quoi. Même si vous faites un film avec des gens qui parlent avec un accent du Sud, il faut extrêmement travailler de manière à ce que ce film soit reçu en tant qu'universel. Vous savez, Tchekhov, il disait, si tu veux parler du monde, parle de ton village. Eh bien, c'est vrai. Si vous voulez être universel, il faut partir de où vous êtes. Mais le problème, c'est que les tenants de la culture conventionnelle, traditionnelle française, sont pour beaucoup à 80% issus de la bourgeoisie. Donc, ils ont leur langage.
Mmh.
C'est le leur. Donc, si vous voulez, ils parlent pour tout le monde, ils croient que tout le monde comprend leur langage. Et de fait, ils font plus que croire que tout le monde comprend leur langage, ils l'imposent, encore une fois, de manière insidieuse. Et on ne s'en rend pas compte. Et on se dit, finalement, que si on veut être accepté, si on veut être reconnu, eh ben, il faut se transformer en bourgeois.
Mmh.
C'est tout.
Alors, le monde d'après, on y est?
Je ne sais pas encore si c'est vraiment le monde d'après.
Où on fait du surplace, on est à un an.
Je crois qu'on piétine.
Un an de ce texte que vous aviez écrit, et déconfiné, et en même temps, bah voilà, dans les Alpes-Maritimes, le week-end, on peut travailler la semaine, mais le week-end, on n'a pas le droit de bouger. À Paris, en Ile-de-France, on s'interroge à refermer les portes.
On va y venir. Je suis à peu près sûre que le week-end prochain, on sera renfermé. Ça m'étonnerait qu'ils nous laissent dehors. Enfin, j'en sais rien, parce que c'est toujours la même histoire. Si ça leur coûte plus cher de nous renfermer que de nous laisser dehors, alors ils nous laisseront dehors. Et puis voilà. Et puis, il n'y aura toujours pas plus de lits pour les malades. Et on nous fera des infos en nous disant qu'on a été obligé de transporter les gens d'un côté et de l'autre. Mais c'est absolument terrible, en nous disant que les transporter, c'est terrible. Mais en ne nous disant pas qu'on les transporte parce qu'on a fermé des lits. Parce qu'on a fermé des services. Moi, vous voyez, je voudrais juste la fin de la phrase. Mais la fin de la phrase, on ne la dit jamais. Jamais.
Vous écrivez « Comment allons-nous sortir de là ? Combien d'hommes et de femmes seront engloutis par la misère ? Quelles conséquences en subiront les immigrés alors que nous allons atteindre un taux de chômage et que je ne crois avoir jamais connu ?»
Je pense que ça va être très dur. Enfin, oui. Enfin, en tout cas, vous savez, moi, je suis marraine du Secours Populaire. Je peux vous dire que dans les banques alimentaires, ça fait un an que les files sont très, très longues. Très, très longues. Et que même la population de ces files alimentaires, elle a changé aussi. Il y a toujours ceux qui n'avaient rien, qui sont toujours là. Et puis, il y a plein d'autres gens qui se retrouvent là, faire la queue. Et qui ne comprennent pas bien pourquoi ils sont là. Mais si vous prenez par exemple tous les gens autour d'un festival, par exemple, il y a les artistes et puis les techniciens. Mais après, il y a des tas de gens que fait travailler un festival. Des gens qui viennent juste pour aider à monter le plateau, des machins comme ça, des gens qui viennent pour la restauration, des gens qui viennent pour couper les billets, des gens qui viennent pour placer les gens, des gens... Ça fait travailler... Et tous ces gens-là, ils n'ont plus rien, parce qu'ils ne sont pas intermittents. Ils n'ont même pas le statut d'intermittent, donc ils ne peuvent rien toucher. Ou enfin, ils touchent une misère. Donc nous aussi, parce que vous savez combien la culture produit d'argent ? 22 milliards par an. Mmh. D'accord ? 22 milliards par an. C'est quand même pas mal, non, ce qu'on rapporte. Et on nous traite mal, sans respect. Pourtant... les voitures, on ne se comporte pas de la même manière avec les gens qui fabriquent des voitures. Mmh. Mais si les gens qui fabriquent des voitures, ils mettent des radios dans leurs voitures, c'est parce qu'il y a des gens qui ont écrit des chansons et qui les chantent. Et que c'est important qu'ils aient une radio dans leur voiture, parce que les gens, quand ils voyagent, ils ont envie d'entendre des chansons. Voilà. On est partout. Mais simplement, on ne le dit pas. Mais on est partout. On aide les gens. C'est pas qu'on aide les gens à vivre, c'est que ça fait partie de la vie. C'est tout. Tout simplement. C'est pour ça qu'on est aussi essentiel que boire ou manger.
L'émission va bientôt se terminer. La culture, toujours, encore, et une forme d'espoir malgré tous ces nuages, tous ces...
Vous savez, la résistance, c'est l'espoir. C'est tout. Il faut résister. D'abord parce que c'est beaucoup plus amusant, en plus. C'est tout, voilà.
C'est tout et c'est beaucoup.
Non, mais c'est beaucoup plus amusant de résister que de subir. On n'a qu'une vie. J'ai pas du tout envie de la subir, ma vie. Je veux la vivre. Je veux en être responsable. J'ai certainement fait des tas d'erreurs. Mais au moins, c'est moi qui ai décidé de les faire. On me les a pas fait faire.
Ariane Ascarine, on vous remercie.
C'est et moi qui vous remercie.
On donne rendez-vous aux auditeurs de Grenouille le mois prochain.
La Grande Tchatche, le Ravi, Radio Grenouille.